Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 16 décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Enlèvement au Nigeria des centaines de lycéens à Kankara. Des gangs auraient agi sur ordre des islamistes. 11 morts au Tchad dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs. Facebook a supprimé 3 réseaux informatiques de France et de Russie accusés d'interférence en Afrique. Les cas de coronavirus augmentent dans le monde à l'approche des fêtes de Noël où des millions de personnes se réunissent. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'enlèvement de centaines de lycéens vendredi au Nigeria a été perpétré pour le compte de Boko Haram par 3 gangs criminels exécutant des kidnappings contre rançon. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon des sources sécuritaires, le rapt a été coordonné par le chef de gang Awalun Daouda en collaboration avec 2 autres bandits renommés. Awalun Daouda, âgé de 43 ans, est à l'origine un voleur de bétail qui s'est reconverti dans le trafic d'armes, selon une source sécuritaire. L'homme achetait des armes en Libye qu'il revendait dans le nord du Nigeria aux bandits. Mardi, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a revendiqué cet enlèvement qui a eu lieu à des centaines de kilomètres de la zone où opère le groupe djihadiste. Cette annonce, signe d'une expansion territoriale du groupe, a provoqué l'effroi au Nigeria. 333 adolescents sont toujours portés disparus depuis l'attaque de leur pensionnat situé à Kankara, dans le nord-ouest du pays, selon les autorités. Depuis près de 10 ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie aux violences des groupes criminels surnommés « bandits » qui multiplient les enlèvements contre rançon et volent le bétail.
Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a ordonné la réouverture des frontières avec le Bénin et le Niger, fermées depuis août 2019, pour stopper la contrebande et encourager la production locale. 4 postes frontières seront ouverts jeudi et tous les autres d'ici la fin du mois, a indiqué la ministre de l'économie Zainab Ahmed. Le président a rappelé que l'interdiction d'importer du riz et de la volaille, entre autres produits, restait en vigueur et serait mise en œuvre par les équipes des douanes aux frontières. Au Tchad, 11 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du pays. Un champ détruit par les animaux a déclenché les hostilités. Le point avec Mohamed Oumfa.
Les combats se sont déroulés entre dimanche et lundi dans la province du Tandjilé-Est après que les animaux d'un éleveur ont saccagé un champ. Les cultivateurs s'en sont ensuite pris à des éleveurs. Selon le procureur de la République, les affrontements ont fait 4 morts chez les éleveurs Peuls et 7 du côté des agriculteurs autochtones. 2 d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre. Les cultivateurs s'en sont pris à des véhicules de la sécurité et au bureau du préfet pour protester contre les autorités provinciales qui sont intervenues pour sauver des éleveurs. Les forces de l'ordre ont ainsi ouvert le feu en tentant de dissuader les manifestants. Ce n'est qu'après l'arrivée de renforts que le calme est revenu. Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du Tchad. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones sédentaires. Cette partie du pays, au climat et à la végétation plus clément, attire depuis longtemps les éleveurs des zones sahéliennes désertiques du nord.
L'ancien président centrafricain François Bozizé, dont la candidature a été invalidée, soutiendra l'ancien premier ministre Anissé Georges Dologuélé pour la présidentielle du 27 décembre face au président sortant Faustin Archange Touadéra, a annoncé ce mercredi son équipe de campagne. Mardi, M. Bozizé avait accepté l'invalidation de sa candidature et appelé l'opposition à s'unir derrière un candidat commun pour battre l'actuel chef de l'État qui brigue un second mandat. Facebook a annoncé avoir supprimé 3 réseaux informatiques gérés depuis la France et la Russie. Les 2 pays sont accusés de mener des opérations d'interférence en Afrique. Le point avec John Linden.
Deux de ces réseaux étaient conduits de Russie et un autre de France et les participants usaient de faux profils. Facebook précise que le réseau basé en France visait essentiellement la Centrafrique et le Mali et dans une moindre mesure le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Tchad et aurait des liens avec des individus associés à l'armée française. Donnant la parole à de faux habitants de ces pays, ces comptes commentaient par exemple la politique française sur place ou exprimaient un soutien à l'armée française. Facebook précise avoir, dans le cas français, supprimé 84 comptes, 6 pages, 9 groupes ainsi que 16 comptes Instagram. Nous ne sommes pas étonnés par les conclusions publiées par Facebook, mais ne pouvons à ce stade être en mesure d'attribuer d'éventuelles responsabilités en raison de la multiplicité des acteurs de cette lutte informationnelle, étatique ou non, a fait savoir le ministère français des armées, qui garde par ailleurs le silence sur les accusations d'interférence française au Mali, où est déployée la force française Barkhane.
Deux ONG internationales dont Reporters sans frontières ont demandé aux autorités camerounaises de publier les résultats de l'enquête sur la mort en détention en 2019 du journaliste Samuel Wazizi. Les autorités avaient mis 10 mois à reconnaître la mort du journaliste anglophone arrêté le 2 août 2019 à Bouéa dans la région sud-ouest. Il était accusé par le pouvoir d'avoir tenu des propos critiques sur la gestion de la crise dans les régions anglophones, selon le communiqué de RSF et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'Union européenne va suspendre le versement de 90 millions d'euros d'aide à l'Éthiopie en raison du conflit au Tigré. La reprise des paiements est soumise à plusieurs conditions, a précisé une porte-parole de la Commission européenne. Les autorités éthiopiennes doivent garantir un accès humanitaire total, a indiqué Anna Pisonero-Hernandez. Parmi les autres conditions, les autorités doivent enquêter sur les allégations de violation des droits humains et rétablir les réseaux de communication et l'accès des médias au Tigré. Le président mozambicain Philippe Nyusi a affirmé que les islamistes armés qui sont actifs depuis 3 ans dans la province de Cabo Delgado étaient dirigés par des Tanzaniens qui travaillaient à radicaliser la population locale depuis 2012. S'adressant aux députés à l'occasion de son discours annuel sur l'état de la nation, M. Nyusi a expliqué que le gouvernement était conscient dès cette époque du processus d'islamisation à l'œuvre dans la région à majorité musulmane.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un couvre-feu va être instauré à partir de vendredi dans toute la République démocratique du Congo face à la deuxième vague de Covid-19 qui continue de sévir dans le monde. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les autorités congolaises ont instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin suite à une hausse de nouveaux cas, 345, dont 298 à Kinshasa et 6 nouveaux décès mardi. L'Allemagne dit enregistrer un nombre record de décès, 952 au cours des dernières 24 heures, au premier jour d'un reconfinement partiel. En Angleterre, hôtels, restaurants, cinémas, théâtres et musées ont fermé à Londres, pareil dans tout le Danemark. Les 27 États de l'Union européenne pourront commencer le même jour leur campagne de vaccination anti-Covid dès le feu vert d'ici une semaine, a annoncé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ici aux États-Unis, la vaccination continue parmi les personnes à haut risque. La biotech américaine Kentucky Bioprocessing a annoncé le lancement de premiers essais pour un vaccin développé grâce à une feuille de tabac. La pandémie a fait plus de 1 636 000 morts dans le monde, dont 303 000 aux États-Unis.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'est placé en quarantaine après un contact avec une personne positive au coronavirus, a annoncé le département d'État. Le secrétaire d'État a été testé et il est négatif, a précisé un porte-parole de la diplomatie américaine, mais il a été identifié comme ayant eu un contact avec une personne testée positive, dont l'identité identité n'est pas révélée par respect de sa vie privée, a dit ce porte-parole. En France, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines de 4 ans de prison à la perpétuité dans le procès des attentats qui avaient fait 17 morts en région parisienne en janvier 2015. Elle a condamné à 30 ans de réclusion criminelle le principal accusé, Ali Riza Polat, pour complicité des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Hamedi Koulibaly lors des attentats contre Charlie Hebdo et un magasin hyper cacher. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
465 millions de dollars, c'est le financement offert par la Société Générale Cameroun aux entreprises pour leur permettre de poursuivre leurs activités affectées par la pandémie de COVID-19. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère des Finances et la Société Générale Cameroun. Les PME éligibles à cette ligne de crédit sont celles qui évoluent dans les secteurs de la manufacture, des transports, du tourisme, de la confection et de l'agriculture. La start-up d'énergie solaire Olu Solar a levé 8,5 millions de dollars en capital de série B. C'est l'une des plus importantes levées de fonds jamais réalisées en Afrique francophone. Elle a été dirigée par le développeur indépendant d'énergie renouvelable RP Global. D'autres investisseurs ont également participé au cycle de financement. Olu Solar est spécialisé dans la fourniture d'énergie abordable dans les zones rurales et périurbaines en Afrique de l'Ouest. Elle opère notamment au Nigeria, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. L'Afrique est la région du monde qui affiche la deuxième plus forte croissance, estimée à 3,4% en 2019. La croissance en Afrique devrait néanmoins rebondir à 5% en 2021 à la faveur d'une mise en œuvre efficace des mesures de riposte contre la pandémie de COVID-19 et de la reprise économique mondiale.
Présent les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'équipe nationale junior burkinabé s'est qualifiée pour la CAN de sa catégorie Mauritanie 2021. Opposée en demi-finale aux Elefanto à Porto Novo au Bénin, où se jouent les qualifications de la zone UFOA B, les Burkinabés se sont imposés 4 buts à 1. Ils retrouveront samedi le Ghana en finale. Le sélectionneur du Burkina Faso, Oscar Barreau, se prononce à l'issue de la rencontre.
Ça a été un match très difficile et compliqué. Les scores peut-être ne reflètent pas la physionomie du match. Nous étions face à une équipe ivoirienne très technique et très solide. Nous aussi, on avait notre force, donc on a resté sur nos forces et on a exploité les faiblesses de cette équipe.
Oscar Barreau, sélectionneur des étalons juniors. Ghanéens et Burkinabé rejoignent ainsi la Mauritanie, pays hôte, la Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, la Namibie et le Mozambique au titre des pays déjà qualifiés pour la CAN des moins de 20 ans. Les 4 derniers des 12 qualifiés seront connus au terme des tournois qualificatifs en Afrique du Nord et en Afrique centrale. La phase finale de la CAN des moins de 20 ans aura lieu du 14 février au 4 mars prochain en Mauritanie. En République démocratique du Congo, le site de la Fédération congolaise de football association fait savoir que Jean-Florent Ibengué a été nommé sélectionneur des Léopards A'. Il conduira donc l'équipe à la 6e phase finale du championnat d'Afrique des Nations, prévue du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. L'année dernière, Florent Ibengué a démissionné à la tête des Léopards A. Auparavant, il a remporté le CHAN Rwanda 2016. L'actuel entraîneur de l'association sportive V-Club de Kinshasa sera assisté par les techniciens Pamphile Miayo et Daoula Lopembe. La République démocratique du Congo débutera la compétition le 17 janvier face au Congo dans un derby de l'Afrique centrale et jouera ensuite le Niger et la Libye. Basketball, la superstar des Milwaukee Bucks Gianni Antetokounmpo a affirmé sur Twitter avoir accepté un nouveau contrat, le plus gros de l'histoire pour 5 ans de plus avec la franchise. « C'est ma maison, c'est ma ville », a déclaré le MVP des 2 dernières saisons régulières de NBA. La chaîne de télévision américaine ESPN a dévoilé que le renouvellement de son contrat coûterait 228 millions de dollars aux Bucks. ESPN explique aussi que ce montant en fait le contrat le plus onéreux de l'histoire de la NBA. devant celui de 206,8 millions de dollars signé par Rachel Westbrook avec Oklahoma City en 2017. Le salaire annuel de cet enfant de migrant nigérien né à Athènes s'élèvera à 45,6 millions de dollars par an, soit plus que les 44,5 millions par an de la superstar des Lakers, les LeBron James.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Nigeria, la commission de communication a ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de suspendre la vente et l'activation des cartes SIM pour permettre l'audit de la base de données d'enregistrement des abonnés. Elle menace de sanctionner ceux qui ne respecteront pas sa décision, avec la possibilité de retirer le permis d'exploitation. La commission s'inquiète de la difficulté des agences de sécurité à mettre la main sur des criminels qui commettent des assassinats et enlèvements contre rançon à l'aide de téléphones portables. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Do you think your SIM registration details may be wrong? Because your SIM is your identity, you can walk into any MTN shop to do an.
Ces messages invitant les clients de la compagnie de télécommunications MTN à enregistrer les puces ne passera pas sur les antennes des radios locales pour une période indéterminée au Nigeria. Installé dans un marché à la banlieue d'Abuja devant sa table remplie de cartes SIM, Kingsley vend des cartes SIM depuis 5 années. Pour lui, la décision des autorités fédérales porte un impact négatif sur son business.
Depuis que le gouvernement a interdit la vente des cartes SIM, beaucoup de clients viennent nous voir pour enregistrer leurs cartes. D'autres me demandent même de leur vendre les cartes déjà enregistrées, mais je réponds que je ne vends pas de cartes actuellement. Donc, ce n'est pas moi seul, mais tout le monde est mécontent. Pour moi-même, le peu que je gagnais tous les jours ne vient plus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire ?
Ils sont des milliers d'autres jeunes à travers le pays impliqués dans ces commerces de vente de cartes SIM à cause du manque d'emploi. Le gouvernement fédéral veut faire l'audit pour vérifier et s'assurer de la conformité des opérateurs des réseaux mobiles avec les normes de qualité et les exigences d'enregistrement de la carte SIM établies par le ministère fédéral des communications et de l'économie numérique. Mais il y a un autre aspect qui intéresse les autorités nigériennes, puisque le pays a mis en place les règles d'enregistrement de la carte SIM pour tenter d'empêcher les terroristes et les criminels d'utiliser des cartes SIM non enregistrées. Kabiru Adamu, expert en sécurité, partage l'inquiétude du gouvernement.
Oui, il y a un problème de sécurité. Il n'y a pas longtemps, comme vous le savez, lorsque le Parlement fédéral a eu un débat sur la question de l'insécurité dans le pays, l'un des problèmes évoqués était sur l'utilisation de téléphones et de cartes SIM par les criminels pour appeler. Et en quelque sorte, l'UFCC ou les entreprises de télécommunications ont pu suivre les traces de ces appels.
La commission n'a pas indiqué la durée de l'audit, mais souligne qu'elle pourrait accorder des exemptions là où c'est absolument nécessaire. La mesure, si elle dure longtemps, pourrait avoir un impact significatif sur les entreprises de communication et les nouveaux abonnés qui souhaitent avoir une nouvelle carte SIM. Et la procédure semble être un peu complexe et longue, comme nous l'explique Dipo Oyewole, analyste.
Je ne pense pas que cela marche aussi vite qu'il souhaite que ça marche. Nous connaissons les difficultés rencontrées pour obtenir le numéro d'identification nationale. Nous avons des gens qui n'ont pas reçu leur carte d'identité depuis 4 ou 5 ans et qui se sont fait enregistrer depuis 2015 ou 2016. Donc la question est de savoir ce que le gouvernement fait face à ce problème pour assurer que cette stratégie marche.
On estime aujourd'hui à plus de 200 millions le nombre d'abonnés du réseau mobile au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Gabon, le gouvernement prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 mai. La décision a été prise en Conseil des ministres. Dans le même temps, le président Ali Bongo a loué le plan de riposte contre le coronavirus en dressant un bilan positif du fonds de santé créé pour soutenir les populations économiquement faibles. Le point avec notre correspondant Ismaël Obiangze à Libreville.
Le succès du fonds d'aide à la santé mis à la disposition des plus vulnérables a dépassé nos anticipations. C'est une déclaration d'Ali Bongo Ondimba, satisfait de son implication personnelle dans la lutte contre la pandémie. Le président gabonais annonce le bilan d'une opération spéciale qui a duré 6 mois.
Ce fonds santé a permis de prendre en charge près de 350 000 Gabonais économiquement faibles, enregistrés à l'ANGS. Dès le début du mois de septembre, les 2,1 milliards de francs CFA que j'ai injectés à titre personnel ont été consommés en totalité.
Bien que satisfait des efforts collectifs des siens dans le respect de l'ensemble des mesures de prévention au Covid-19, Ali Bongo Ondimba a, dans son message, appelé la population à redoubler de vigilance. Pris Eyinga est analyste politique.
Je crois que le président de la République a voulu tenir un discours d'optimisme et surtout de prudence qui va dans le sens de booster le peuple gabonais dans ses efforts qui pourraient avoir eu quelques fatigues du fait de la durée des mesures.
Marie-Léontine Ntsam est une femme au foyer qui s'est dit lassée par les discours officiels sur la lutte contre le coronavirus. Elle est sans emploi avec plusieurs enfants.
Là, parce que nous ne voyons vraiment pas clair dans ces discours. Si nous allons jusqu'en mai, rien ne nous rassure que cela va s'arrêter. Et les personnes qui ont des familles et tout, comment pourront-elles nourrir leurs familles?
Pour Jean-Léon Obian, couturier au quartier Venez voir à Libreville, ce confinement qui se prolonge cache un dessein inavoué.
Donc, cette affaire de coronavirus-là, qu'on va prolonger, nous savons qu'ils sont en train de chercher d'autres objectifs, de poursuivre d'autres objectifs qu'un problème sanitaire.
Et comme l'habitude devient une seconde nature, le jeune Anissé Ndoyéné, commerçant au grand marché Mamboué, fait contre mauvaise fortune bon cœur.
Du moment où ça fait quasiment déjà plus de 8 mois, on s'est habitué. Mais on sait qu'on ne regarde pas trop au niveau du temps en fait. On essaye toujours de combattre de notre façon.
Le gouvernement fonde aussi l'espoir sur l'arrivée du vaccin pour un retour éventuel à la normale. Aujourd'hui, notre optimisme est encore ravivé par l'espoir d'un vaccin dont l'arrivée semble prochaine, a laissé entendre Ali Bongo Ondimba. Libreville, Ismaël Obiangze pour VO Afrique.
Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a félicité le président élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris au lendemain du vote formel du collège électoral qui a confirmé la victoire de Biden aux élections du 3 novembre. Rien ne montre jusque-là que le président Donald Trump serait prêt à accepter sa défaite. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche, le récit est de Lionel Gaïma.
Toujours aucun signe de concession du président sortant Donald Trump. Kelly McNanny est l'attachée de presse de la Maison Blanche.
Le président est toujours impliqué dans le litige actuel lié à l'élection.
Un peu plus tôt mardi, Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a rompu son silence. Il a félicité le président élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris pour leur victoire.
Notre système de gouvernement a les dispositions pour déterminer qui va prêter serment le 20 janvier. Le collège électoral a parlé.
Lundi, les membres du collège électoral ont officiellement confirmé la victoire de Biden avec 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Pourtant, M. Trump continue de nier avoir perdu.
Cette élection était une fraude.
Cela a entraîné une réprimande sévère de la part de Biden qui, lundi soir, a accusé Trump de mener une attaque sans précédent contre la démocratie.
C'est une position si extrême que nous n'avons jamais vue. Une position qui refuse de respecter la volonté du peuple, refuse de respecter la primature du droit et refuse d'honorer notre constitution.
Mais M. Trump continue de promouvoir des allégations de fraude électorale. Ses partisans le croient. Ils se sont rassemblés ce week-end à Washington, D.C., la capitale américaine. Susan K. Bowman, une militante pro-Trump.
Nous ne sommes pas une république bananière. Nous devons régler ces élections.
Un groupe de républicains de la Chambre des représentants a déclaré qu'il va utiliser le décompte des résultats par le Congrès le 6 janvier pour déclarer Donald Trump vainqueur, mais c'est une décision largement symbolique. William Hauer est professeur de politique américaine à l'Université de Chicago.
Il s'agit moins d'une tentative ultime de renverser l'élection. C'est juste une autre opportunité, une autre performance pour des membres du Parti républicain de démontrer leur fidélité et leur engagement envers Trump et le Trumpisme.
Trump et ses alliés ont engagé près de 60 poursuites, mais aucune n'a fourni la preuve d'une fraude généralisée. Aziz Hook est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Chicago.
Chaque fonctionnaire responsable des élections, et même le procureur général William Barr, disent tout simplement qu'il n'y a pas eu de fraude.
Le procureur général William Barr est tombé en disgrâce auprès de Trump. Barr a annoncé sa démission lundi, après avoir reconnu que le ministère de la Justice qu'il dirige n'a trouvé aucune fraude électorale.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis continuent de cibler le groupe terroriste Al-Qaïda et ses affiliés meurtriers, y compris Al-Shabaab. Plus récemment, le département d'État a placé les hauts dirigeants d'Al-Shabaab, Abdoulaye Ousmane Mohamed et Malim Ayman, sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés. Abdoulaye Ousmane Mohamed, également connu sous le nom d'ingénieur Ismaël, est l'expert principal en explosifs d'Al-Shabaab, responsable de la gestion globale des opérations et de la fabrication d'explosifs pour le groupe terroriste. Il est également conseiller spécial du soi-disant émir d'Al-Shabaab et est le chef d'Al-Kateb, l'aile médiatique du groupe. Malim Ayman, lui, est le chef de Jesh Ayman, une unité d'Al-Shabaab menant des attaques et des opérations terroristes au Kenya et en Somalie. Ayman était chargé de préparer l'attaque de janvier 2020 contre le camp Simba à Manda Bay au Kenya et qui a tué un militaire et deux entrepreneurs américains. Al-Shabaab a été désigné comme organisation terroriste en mars 2008 et continue de menacer la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie ainsi que du Kenya. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué « Les États-Unis se sont engagés à perturber les méthodes de financement illicites d'Al-Shabaab, à limiter sa capacité à mener des nouvelles attaques contre des civils et à aider le gouvernement fédéral de la Somalie à perturber le financement du terrorisme. Cela exigera de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour dégrader la capacité et les opérations du groupe terroriste en combattant son contrôle et son influence en Afrique de l'Est. » En raison de ces désignations, il est interdit aux citoyens américains de s'engager dans des transactions avec Mohamed et Ayman. Leurs biens et intérêts sous la juridiction des États-Unis sont bloqués. En outre, c'est un crime de fournir sciemment ou de tenter ou de conspirer pour fournir un soutien matériel ou de ressources à Al-Shabaab. Ces désignations font partie d'un effort plus large de lutte contre le terrorisme à l'étranger, a déclaré Nathan Sells, coordinateur de la lutte contre le terrorisme. Nous apporterons tous nos outils à ce combat, pas seulement les sanctions, mais aussi le partage d'informations, les contre-messages, la lutte contre les voyages et le renforcement des capacités des partenaires pour protéger les cibles vulnérables. Le coordinateur CELS a ajouté que les États-Unis sont prêts à cibler tout groupe terroriste étranger qui menace nos citoyens, nos intérêts à l'étranger ou nos alliés. Nous visons à perturber les menaces terroristes comme Al-Shabaab avec nos désignations et ces actions feront exactement cela.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.